Vous m'avez tant aimé quand j'étais bergerette, et vous voudriez retrouver toujours les mêmes chansonnettes et vos 20 ans qui sont...
Nous entendions Rosangela Gramoni du Centre de santé des femmes de Genève, Rosa Canina, qui parlait donc des changements physiologiques qui se passent pendant la ménopause. Il est donc question aujourd'hui dans Remue Ménage sur Radio Zone 93.8 de ménopause et aussi de ce cap à passer, la cinquantaine. C'est une question qui vous intéresse, vous avez des informations à nous communiquer ou encore des expériences à nous faire partager. Alors vous nous appelez sans hésiter au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Et maintenant, nous entendons Anne Sylvestre, vous m'avez tant aimé.
À se couper le cœur en quatre, à coups d'espoir, à coups de peur, on prend de l'âme, on prend de l'âge, et on se sent riche à foison. Ça serait sûrement dommage de ne pas en faire des chansons. Vous m'avez tant aimé quand j'étais bergerette, et vous voudriez retrouver toujours les mêmes chansonnettes et vos 20 ans qui sont restés. Mais pour vous aussi le temps passe, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et que voulez-vous que j'y fasse si la magie vous a quitté? Ce n'est pas en chantant long l'air que je vous rendrai vos 20 ans. Ne regardez pas en arrière, car moi je vous aime au présent. Vous m'avez tant aimé quand j'étais bergerette, et vous voudriez retrouver toujours les mêmes chansonnettes et vos 20 ans qui sont restés. Aussi je vous demande en grâce de ne pas bouder mes refrains, même et surtout quand ils remplacent ceux que vous connaissiez si bien. Les chansons de notre jeunesse, je m'y sens un peu à l'étroit. Si d'autres en veulent, je les laisse volontiers les chanter pour moi. Vous m'avez tant aimé quand j'étais bergerette, et vous pouvez m'accompagner le long des autres chansonnettes et de nos nouvelles années.
Anne Sylvestre, donc, vous m'avez tant aimé. Nous avons donc un super programme musical que nous a préparé Catherine, donc, comme vous l'avez déjà remarqué, avec toutes des chansons, des thèmes qui vont justement avec cette période de la ménopause et de la cinquantaine. Alors Paulette, nous profitons donc de ta présence avec nous pour que tu nous dises comment ça s'est passé pour toi, cette ménopause.
Alors pour moi, elle est survenue à 50 ans, vraiment à 50 ans pile. À la suite d'un fibrome, j'avais des hémorragies importantes. Évidemment, j'ai rencontré mon gynécologue. Il a fait une hystérographie, donc une radiographie de l'utérus, et on avait décelé un petit fibrome. On m'a enlevé ça par les voies naturelles, donc ça a été quelque chose de très facile. Et puis, à partir de là, plus rien. Donc, je n'ai plus eu de règles. Alors, je me suis dit, bon, ben, ça y est, je suis ménopausée, et puis tout va bien. Je l'ai très bien pris. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu tout à l'heure ce dont on vous a parlé, vraiment des bouffées de chaleur. Mais alors vraiment des bouffées d'hyper chaleur, parce que j'arrivais à mouiller mon drap la nuit. Alors c'était quand même un petit peu inconfortable. Et j'ai rencontré à nouveau mon gynécologue qui m'a ordonné alors là un traitement à base d'hormones, donc à base d'estrogène, dont on vous a parlé tout à l'heure. Ce traitement, je l'ai très très bien supporté. Et je l'ai continué donc jusqu'à présent. Et vous savez que maintenant, donc ce traitement, on le prend en général par la bouche. Et pour certaines femmes, je dis bien, chaque cas est un cas particulier. Donc je ne peux apporter ici que mon expérience personnelle. Pour certaines femmes, ça peut à la longue fatiguer un peu le foie. Alors le gynécologue, qui en l'occurrence maintenant depuis quelques années est mon gendre, m'a dit, écoute, maintenant, il existe des petits collants qu'on met sur la fesse deux fois par semaine, pendant trois semaines, et c'est extra, on ne fatigue pas son foie. Alors, j'ai essayé, bien évidemment. Et puis, mes règles sont revenues. Au bout de 11 ans de ménopause, plus rien, mes règles sont revenues. J'ai eu très peur, je me suis dit, j'ai un cancer, qu'est-ce qui se passe? Et c'était tout simplement un dosage d'estrogène qui était trop fort. Alors évidemment, vous savez, on peut baser ça aussi sous le signe de l'humour. Il faut en rire un petit peu quand il n'y a rien de grave. Alors ma fille disant, ma mère, comme je la connais, elle va nous faire de l'acné. Et puis l'année prochaine, elle va nous faire des fugues. Enfin, vous voyez, on en a bien ri à la maison. Mais enfin, pour moi, je peux dire que pour mon cas particulier, tout s'est passé très bien. J'ai senti comme quelque chose, une certaine liberté de vie, comme une libération de quelque chose. Alors, vous rendez compte, plus de règles, plus de contraception, une vie, pour moi, bien simplifiée.
Alors, je voulais savoir, quand tu as commencé à avoir ces vapeurs, tu ne te sentais pas très bien, comment réagissait ton entourage, par exemple? Est-ce que tu en as parlé ou bien tu t'es dit, bon, tu as simplement consulté ton médecin? Est-ce que tu as partagé ça avec ta famille, des amis?
J'en ai parlé, j'étais bien obligée parce qu'on me voyait transpirer sans faire d'effort. Puis je devenais toute rouge comme si je piquais un phare. Alors on me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, ce sont mes vapeurs.
Et ça a passé comme ça?
Avec les estrogènes, très bien.
Ouais. Donc ça, c'est ton expérience à toi qui est du reste très intéressante. On a vu donc, on vous donnera à la fin de cette émission une bibliographie où on parle justement, on peut se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est à nos, quelles transformations subissent notre corps. Il y a des schémas dans certains ouvrages, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a une autre chose, c'est pour ça qu'on a élargi cette émission. On ne voulait pas simplement parler de transformation physiologique, mais aussi, c'est vrai que la ménopause s'inscrit dans un contexte social. C'est la cinquantaine, il y a pas mal de transformations. Souvent, c'est le moment où les enfants s'en vont de la maison. Ça peut être aussi le moment où on perd ses parents ou encore où on a un travail et on est peut-être plus apprécié à son travail comme on l'était avant, place aux jeunes. C'est un moment aussi où lorsqu'on regarde les rues, les affiches dans les rues de notre ville ou encore des journaux, on voit que des jeunes femmes belles, super belles et dynamiques. Et tout ça renvoyé à notre figure, c'est peut-être difficile à accepter. C'est pourquoi nous avons interviewé Françoise Cobre, qui est psychologue à l'École des parents de Genève et qui a animé des groupes ménopause. Vous rencontrez beaucoup de femmes qui vivent cette période de la ménopause. Je pense que chaque femme la vit différemment, mais il y a quand même des questions qui reviennent assez souvent.
Oui, il y a d'abord les questions physiques et puis les questions où est-ce que j'en suis, quel équilibre est-ce que je vais pouvoir avoir après, par quel bout je vais pouvoir entamer toutes les questions que je me pose. C'est un âge plein d'interrogations.
Et comment les femmes se posent généralement ces questions?
Mais elles commencent à se poser généralement par rapport aux personnes de leur entourage. Souvent, il y a des parents qui sont âgés et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec eux. La relation de dépendance inverse, c'est les grands-parents qui deviennent des êtres à protéger, à entourer. La mort s'approche. La ménopause, c'est aussi un âge de se rapprocher de la vieillesse. Donc, la mort des parents nous pose aussi des questions par rapport à notre propre mort. Et puis, on se pose la question, que devient mon couple? On a dû s'occuper des enfants, on a été un couple parental. Maintenant, on va se retrouver seul, mon mari et moi. Alors, où est-ce qu'on en est? Quel style de vie on veut avoir? Il y a beaucoup de personnes qui, tant que les enfants sont là, ne veulent pas divorcer, alors que vraiment, elles veulent en arriver là, c'est pas forcé. Et puis, par rapport aux enfants, alors les enfants sont des bousculateurs magnifiques, parce qu'à l'adolescence, les questions des jeunes se répercutent sur nous, et ils nous disent, enfin, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors nous nous posons la question, quel est le sens de notre vie? Qu'est-ce qu'on va faire de la vie qui nous reste? Est-ce que nous sommes des mères à plein temps jusqu'à 80 ans? Je crois que ce n'est pas le cas. On entre dans une période où on n'est plus une mère active, on entre dans une période de retraite, une retraite maternelle. Voilà.
Mais la ménopause, c'est un terme assez péjoratif, en tout cas dans notre société. Est-ce que ces femmes arrivent à exprimer ouvertement, à vivre, se dire, bon, ben maintenant je passe un cap difficile, est-ce que je vais chercher de l'aide?
Il y a parfois une confusion entre faire la ménopause et entrer dans la vieillesse. Alors, il y a là toute une période d'une quinzaine d'années pendant lesquelles il y a comme un second souffle possible. Alors si on cherche de l'aide, généralement c'est sur le plan physique, parce qu'on veut savoir par où ça commence, et puis il y a toutes sortes de petits malaises pour lesquels on peut intervenir, c'est indéniable. Mais si on ne se pose pas des questions relationnelles, on risque alors d'entrer carrément dans la vieillesse. avec une mémoire qui flanche, une dépression qui dure, une peur des contacts humains. Mais si on arrive à retrouver l'ancien projet, si on arrive à refaire du recyclage, à trouver un nouveau sens à sa vie, ben ça peut être une période très, très intéressante. On n'a pas forcément besoin de rencontrer des experts, mais je crois qu'il y a pas mal de livres, de littérature qui permettent déjà de chacun trouver sa réponse. Il n'y a pas une seule réponse. Je pourrais dire qu'une des réponses serait justement de prendre ce temps de pause pour réfléchir à un nouveau départ.
Vous avez animé beaucoup de groupes. Comment cela se passait dans ces groupes ?
Ben, généralement, c'était plein d'humour parce qu'on se rendait compte que chacune de nous rencontre des expériences où on se croit tout seul et on découvre que les autres vivent la même chose. Et finalement, on peut avoir un éclat de rire par rapport à une circonstance qui nous paraissait toute seule, quand nous étions toutes seules, très bloquée. Par exemple, découvrir qu'un mari nous interdit de sortir toute seule, et puis qu'on l'a fait, et puis que ça s'est bien passé, et puis qu'on a osé faire certains actes de liberté, que ça nous donnait du plaisir. Ça donne aussi une certaine dynamique dans un groupe. Je trouve que c'est très valable.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les femmes vivent leur période de ménopause très seules ?
Certaines femmes ont peur d'en parler parce qu'il y a tout cet aspect de dévalorisation. Et je crois que si on peut en parler avec des gens qui ont la confiance, avec les enfants par exemple, ou des amis qui passent par là, c'est important, ça brise la solitude. On peut aussi en parler avec le mari, bien sûr, parce que lui, il n'a pas la ménopause, mais il a quand même l'andropause, c'est-à-dire toute cette physiologie où, sur le plan musculaire, il y a des relâchements, il y a un abaissement des compétences physiques. Donc, plus on peut en parler, moins les choses deviennent dramatiques.
Est-ce qu'il y a un sentiment qui domine quand même pendant cette période ?
Je dirais qu'il y a plutôt un esprit qui domine, qui serait de faire des bilans, de chercher à s'informer et à faire certains projets.
Vous avez dit qu'il était important de faire des projets, justement, de faire face à cette période, mais comment s'y prendre ? Lorsqu'on se pose ces questions, par quel bout commencer ?
Je pense qu'il y a le premier bout, c'est par rapport à son corps. Il y a toutes sortes d'activités physiques qui sont extrêmement saines. Et puis, savoir se relaxer. Parce que comme mère de famille, on est très souvent surchargé. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on a énormément à faire. On n'a pas appris à se détendre. Et puis, il y a des projets qu'on peut faire en communauté. Des projets d'activités bénévoles. Ou bien des projets qu'on a mis de côté et qu'on peut reprendre. Il y a parfois des recyclages qui sont possibles et il y a des possibilités de participer à des groupes, d'échanger avec des femmes qui sont au même niveau que nous.
Mais il y a quand même quelque chose de très difficile car souvent il y a ce sentiment de culpabilité. Alors il faut oser participer à un groupe.
C'est clair. Alors là, il faut prendre sur soi. Mais je crois que souvent, autour de la cinquantaine, on est arrivé à une certaine domination de nos peurs, de nos timidités de jeunes, et que, oui, il faut du courage pour s'insérer à un groupe. Et je crois qu'il vaut mieux s'insérer à un groupe qui n'est pas de son quartier. On se sent beaucoup plus libre à ce moment-là.
Quel est pour vous le meilleur moyen de surmonter, justement, cette période ?
Alors, j'en vois trois de ces moyens. Le premier, c'est par rapport à soi, par rapport à son corps. Apprendre à gérer l'apport des kilos qui viennent petit à petit, insidieusement, alourdir une silhouette, pouvoir faire un peu de sport, de la marche, et puis apprendre à se relaxer. Ça, c'est un des premiers points, soigner son corps, soigner sa silhouette. Mais je pense que sans se gêner, on peut utiliser des hormones et garder un corps en bon état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, sur un plan psychologique, des considérations à faire. C'est-à-dire accepter ce qu'on vit, accepter qu'il y a des parents âgés, accepter qu'on a des enfants qui sont grands, qui vont partir, qui ont d'autres idées que nous, accepter qu'on vit une période difficile. Ça, vivre proche de cette mentalité de...
Mais cette période difficile, c'est souvent une dépression.
C'est souvent une dépression. Et dans ces dépressions, on a tendance, comme l'adolescent, à voir à l'absolu. J'ai complètement raté ma vie, je ne sais plus où j'en suis. Et savoir que ça, c'est très fréquent, mais que ce n'est pas le bout du monde, et qu'après 2-3 ans, ça change, c'est déjà encourageant. Même si sur le moment, c'est quand même dur à vivre. On sait aussi qu'avec la dépression, il y a parfois des pertes de mémoire, que si on ne lâche pas les pédales, la mémoire revient. C'est inévitable que la mémoire n'est plus aussi alerte qu'avant, mais il y a des très grandes capacités de mémoire, il faut continuer. Puis le troisième point, c'est de se rapprocher des autres. Parce que dans la vie de famille, on a été très souvent éloigné de certaines activités sociales. Et il y a là de grandes capacités de se réaliser, donc de se rapprocher des autres. C'est le troisième point. Le premier, c'est son corps. Le deuxième, c'est de rester proche de ce moment d'anxiété, de doute, d'hésitation qui est extrêmement riche, fructueux pour retrouver des projets ou chercher à les réaliser. Et le troisième, c'est de chercher à être en contact avec les autres. Parce qu'on a une tendance à se replier sur soi. Donc, si on essaie de lutter un peu la contre, c'est une des bonnes méthodes pour s'en sortir.
Mais il est difficile, lorsqu'on se pose beaucoup de questions intérieures, justement, où j'en suis, des questions très existentielles, d'aller vers les autres.
Alors, je crois qu'il faut être clair, c'est pas toutes les femmes qui vivent la période de la ménopause avec des graves questions ou des angoisses ou des grosses difficultés. Celles-là, peut-être qu'elles ont besoin d'une aide particulière ou de rencontrer d'autres femmes dans des groupes de discussion. Mais il y a en tout cas un 10% de femmes qui vivent leur ménopause bien, qui sont entourées de personnes amicales, qui ont trouvé un sens à leur vie, et celles-là le vivent sans trop de douleur.
Vous m'avez parlé avant qu'on commence cette interview de la créativité, que c'était aussi un moment important peut-être pour faire ressortir une certaine créativité qu'on a étouffée pendant des années.
Oui, il y a eu des études qui ont été faites. Il y a deux catégories de créateurs, ceux qui créent au début de la vie et ceux qui créent dans le deuxième temps. Et entre autres, Beethoven a été un des hommes comme ça. Et puis Alexandra Davinil et d'autres femmes, écrivains surtout, des femmes moins célèbres, j'en connais qui, par exemple, à 55-58 ans, se sont mis à créer des entreprises, à créer des maisons pour personnes âgées. Par exemple, j'ai une amie à Montpellier qui fait un travail extraordinaire. C'est vraiment une deuxième carrière.
Donc c'est important d'aller chercher en soi tout le potentiel que nous avons.
Oui. Et toute notre expérience, parce que pendant si longtemps, on a pensé que notre style de femme, notre façon de voir, notre façon d'écrire, de nous exprimer, n'était peut-être pas tout à fait adéquat par rapport à une culture plus masculine. Et en fait, c'est une immense richesse. Et maintenant, on se rend compte que les femmes ont leur manière de voir qui est très créative. Alors, il y a un déplacement de la créativité, si vous voulez. Ce n'est plus de la maternité en chair et en os, mais on peut être mère de projets.
Et quel est le sentiment qui vous a marqué le plus positivement, vous, pendant cette période ?
Ça peut paraître bizarre de parler de quelque chose de positif à cette période-là. Et pourtant, j'ai rencontré bien des femmes qui m'ont dit que leur vie était plus riche après qu'avant. Parce qu'il y avait une meilleure connaissance de soi, la liberté de s'occuper de soi. Alors, dans la vie maternelle, on est si souvent décentré par rapport à soi-même. Et puis, il y a cette solidarité de rencontrer d'autres femmes. Ce soulagement de plus trop se sentir le centre responsable de bien des choses dans la famille. Il y a une liberté qui est grande, et puis une joie de créer, et puis de rencontrer d'autres gens. Se sortir d'un moment de crise, c'est extrêmement fortifiant. Une des grandes joies est également un renouveau dans le couple. Parce que s'il y a un grand remue-ménage dans le couple à ce moment-là, ça vaut la peine de s'y atteler parce qu'il y a encore de nombreuses années à vivre ensemble. Il y a des comptes qu'on n'a pas pu régler. Peut-être qu'on a besoin d'un conseiller conjugal pour le faire avec l'aide d'une tierce personne qui voit les choses d'un peu plus loin. Mais un couple qui redémarre, qui fait un remariage à ce moment-là, c'est une très grande découverte et une très grande joie.
Nous entendions Françoise Cobre, psychologue et psychothérapeute à l'école des parents, qui nous parlait donc de cette période de la cinquantaine, de la ménopause. Nous faisons une petite pause musicale. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous téléphoner au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Serge Reggiani, votre fille a 20 ans.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame y rit encore. Elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame, et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous a compté double, vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame, et vous troublez aussi. On la trouvait jolie, et voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle, un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaise herbe, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame, le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupables jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance, qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie.
Vous êtes donc toujours à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Alors, Paulette, nous profitons toujours de ta présence pour parler de ton expérience à toi. Est-ce que toi, à cette période-là, donc 50 ans, un peu plus ou peut-être un peu moins, je ne sais, tu as senti au niveau psychologique des transformations? Tu as dû te poser de nouvelles questions.
Oui, j'ai senti des transformations dans le sens de peut-être quelque chose d'un plus. J'ai eu l'impression, ou je me suis sentie passer dans le rang des gens mûrs. Des gens peut-être qui ont vécu quelque chose, des gens qui savent quelque chose. Et pour moi, ça a été vraiment une étape de ma vie, et non un problème. Mais je reconnais que je me suis remise à travailler, que j'ai refait une formation, que je rencontre des jeunes tous les jours. Et vous savez, quand on est avec les jeunes, avec les enfants, je crois qu'on ne vieillit jamais, même si on a 90 ans.
C'est un avantage. Donc toi, tu as quand même, tu ressens le besoin d'avoir une activité. Bon, il se trouve que tu as une activité rémunérée, tu t'exerces un travail, mais pour toi, c'était fondamental.
Oui, c'est fondamental. J'ai pris des responsabilités dans la commune comme conseillère municipale. J'ai pris des responsabilités au niveau des associations. Et je pense que là, étant donné notre âge, peut-être, on peut apporter quelque chose. Tout au moins, on peut aider. Et puis surtout, on devient des êtres de relation et de communication. Je pense que c'est ça, la base de l'équilibre et la base peut-être d'une certaine paix intérieure, la base de bien se sentir vieillir, c'est d'être des êtres de relation. Et ça, pour moi, c'est très important.
Bon, c'est, Ça s'est bien passé, tu l'as bien vécu, mais moi j'imagine quand même qu'il y a des moments où c'est pas si simple que ça.
Alors écoute, je vais quand même te parler du regard des autres et de l'image que les autres nous renvoient. Alors ça c'est vrai dans la rue, c'est vrai en famille, mais je pense surtout au couple. Si dans un couple, par exemple, le conjoint, le partenaire envoie une image dévalorisée de la femme qui est tout d'un coup ménopausée, alors je pense que ça peut être très gênant pour elle. Elle peut tout d'un coup peut-être se sentir différente, et se sentir devenir vieille, et c'est très dommage, parce que ce n'est pas la réalité, c'est l'image du regard de l'autre. Alors je pense qu'il est bon dans ce cas-là de pouvoir en parler soi-même si ça pose problème, et puis de pouvoir surtout en parler avec son conjoint ou avec son partenaire.
Tu as parlé donc du regard des autres dans la rue. Par exemple, la séduction, c'est quelque chose, quand on est jeune, on se dit, bon, il y a toujours, évidemment, on sait que d'énormément de rapports, qu'ils soient professionnels ou privés, personnels, sont basés sur la séduction. Alors, est-ce qu'à 50 ans, il n'y a pas tout d'un coup une angoisse de se dire comment ça va se passer ?
Alors, évidemment, la séduction d'une femme dans le regard d'un homme, c'est peut-être très différent quand on a 50 ou 55 ans. Mais moi, je te répondrais davantage sur le plan charme. Séduction, charme. Le charme, on ne peut pas le définir parce que ça appartient à chacun, il est différent pour chacun. Mais ça se passe sur un autre plan. C'est plus basé, à mon avis, sur des valeurs d'expérience, de vie. Peut-être sur l'importance de la relation qu'on peut avoir avec les gens. Il y a la séduction de l'être intérieur, ou plus peut-être la reconnaissance de la qualité qui importe. Par exemple, l'amitié. Moi, je mettrais là l'amour au sens très large. Je pense qu'une femme qui aime est toujours une femme séduisante.
Et c'est vrai que là, on croit souvent des femmes qui ont 50 ans et bien plus, et puis qui nous séduisent totalement par leur regard brillant, leur sourire, et puis que c'est pas, en tout cas, moi je le ressens pas du tout comme une question d'âge. Maintenant, il y a aussi tout le côté des rapports sexuels. Si on en lit les ouvrages ou bien on écoute un peu autour de ça, on a l'impression que certaines femmes se sentent tout d'un coup obligées de se mettre en veilleuse. Et est-ce que toi, par exemple, c'est quelque chose que tu as ressenti ?
Alors, absolument pas. Je peux peut-être ajouter au niveau de rapports sexuels un petit plus à ce qu'a dit Rosa Angela Gramoni. Il existe maintenant dans le commerce des gels qui sont très bien adaptés à la muqueuse vaginale et qui aident la lubrification pour les femmes qui ont moins de sécrétions, pour faciliter leurs relations sexuelles. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait physiologique que chaque femme peut s'accorder. Il serait très dommage que les femmes ne l'emploient pas. Mais maintenant, moi, je pense que c'est surtout le regard de l'autre qui est important. Surtout le regard de l'autre et son regard aussi sur soi-même.
Bon, c'est le regard de l'autre qui est important, mais enfin, tout le monde sait que lorsqu'on a une idée dans la tête, et si tout d'un coup on se sent justement déprécié, dévalorisé, et justement ceci souvent à cause du regard de l'autre, ou aussi celui que soi-même on se porte à soi, c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux quasiment qui s'installe.
Oui, alors je pense qu'il faut pouvoir en parler. Je pense que tout problème parlé est un problème à moitié résolu. C'est une évidence. Et puis ensuite, se poser des questions et puis ensuite faire des choses. Donc tout à l'heure, on a parlé du travail, on a parlé de la vie associative, on a parlé de formation qu'on peut refaire, de toute cette créativité qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir si on a un peu de temps à lui consacrer. Et voilà, il y a des tas de choses. Je pense qu'une femme vit sa ménopause comme elle a vécu sa vie de femme. Je pense qu'il n'y a pas de coupure, il y a une continuité. Il y a un après, il y a eu un avant qui a préparé cet après. Et je pense que tout ça, c'est une seule personne qui vit ça comme elle est elle-même.
Il se trouve que maintenant, tu es donc éducatrice, comment ça s'appelle ?
En éducation affective et sexuelle.
Ah voilà, c'est ça, terme compliqué. Donc tu vas dans les écoles, tu donnes des cours d'éducation sexuelle. Tu as donc contact avec les enfants. Quelles sont les questions des enfants par rapport justement à cette ménopause ? Est-ce qu'ils en ont tout d'abord ?
Alors, il y en a beaucoup. Alors, pour que les enfants et les jeunes soient très à l'aise dans cette expression, on leur demande de poser des questions écrites qui ne sont pas signées. Alors, on répond aux questions écrites, donc en général, et chacun y trouve son compte. Alors, j'en ai relevé 4 qui sont vraiment significatives et qui reviennent très souvent, en tout cas chaque année, dans toutes les classes. Je vous les livre. Alors, on me pose cette question. Ce n'est pas juste qu'un homme puisse avoir des enfants très vieux et non une femme. Un homme, il peut être père à 60, 70 ans et non une femme. Alors pourquoi ? Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Alors évidemment, j'explique aux petites filles comment elles sont faites. On l'a déjà dit, on le répète. Tu vois, toi, tu es née avec tes organes génitaux de petite fille. Et dans tes ovaires, tu avais beaucoup, beaucoup, des milliers et des milliers de germes d'ovules qui sont nés en même temps que toi. Alors, quand tu auras 50 ans, tes germes d'ovules, ils auront aussi 50 ans. Alors, tu vois, ils seront peut-être un peu trop vieux pour donner un enfant de bonne qualité, pour donner une très bonne santé à l'enfant que tu désirerais. Mais tu sais, on ne donne plus la vie à partir de 50 ans parce que c'est justement pour préserver la qualité de vie des enfants. Mais tu sais, tout à l'heure, comme a dit une dame, on peut être maman de tas d'autres choses. On peut être maman de tas de choses qu'on fait pour les autres, pour soi. On peut peindre, on peut jouer de la musique, on peut continuer à danser. Tu sais, c'est quand même extra. On est toujours une maman.
C'est très encourageant en effet, mais enfin il reste que les hommes peuvent quand même procréer jusqu'à plus tard, ça restera quand même.
Alors personne n'y peut rien.
Personne n'y peut rien. À part ça, cette question-là me fait penser à un thème que nous n'avons pas évoqué aujourd'hui, car nous n'avons pas rencontré de femmes qui parlent de ça, mais c'est celui de la maternité et que des femmes ressentent très fort le fait de ne plus pouvoir avoir effectivement plus d'enfants à ce moment-là. On fait juste une petite pause musicale.
Il y a encore trois questions.